Parole d'acteur, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Steven Jourdan, donc coordinateur de Un singe en été. Bonjour.
Salut.
Ça va bien ?
Ça va, très bien.
Et donc, pour revenir un petit peu sur une formation que tu as mis en place dans le cadre de Mayenne Culture, des formations proposées par Mayenne Culture, donc qui s'appelle « Coordonner et animer une équipe bénévole » qui a eu lieu le samedi 13 mars. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu sur la jeunesse de cette formation ? Enfin, pourquoi est-ce que tu as proposé, en tout cas, cette formation autour de la gestion d'une équipe ?
Alors,
de bénévoles, précisons.
De bénévoles, tout à fait. Pas d'équipe salariée, c'est totalement ça. Différent. Totalement différent. Alors, ces formations de Mayenne Culture, alors Mayenne Culture propose beaucoup de formations à destination des associations culturelles du département. Donc, et des bénévoles qui en font partie, pas que, mais en partie sur les bénévoles. Et on en discute un petit peu tous les ans avec Nicolas Moreau qui s'occupe de la mise en place de ces formations-là, sur qu'est-ce qui pourrait être bien l'année prochaine de mettre en place, quels sont les besoins, les attentes. Et étant donné que c'est vrai que moi je suis en relation assez régulièrement avec pas mal d'organisateurs, ça faisait partie des choses qui remontaient assez souvent de bah, on est perdu, on ne sait pas comment on coordonne une équipe bénévole, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des méthodes, des outils, des techniques pour les mettre en place. Et vu que tout le monde me posait la question à droite à gauche, on s'est dit bon, on va faire une formation pour en discuter déjà, parce que les méthodes, il y en a un petit peu, il y a quelques outils aussi, mais rien ne vaut aussi l'expérience. C'est l'expérimentation et l'échange qu'il a pu y avoir autour de ça.
Chacun a sa petite recette, mais est-ce qu'il y a une recette en fait, voilà, qu'on peut mettre en commun, c'est ça ? C'est un peu dans cette...
Ouais, c'était un petit peu ça, dans cette optique-là, de se dire est-ce qu'on peut essayer en tout cas de cadrer une manière de faire optimale. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, et puis tous les projets sont différents, et on reste quand même, quand on travaille avec des bénévoles, sur de l'humain en priorité, et donc l'humain par nature est variés, divers et variés, c'est ce qui rend la chose intéressante, mais ce qui la rend aussi impossible à cadrer.
Ok, ben on va essayer de creuser un petit peu tout ça, justement, là, sur le côté humain, parce que si j'en comprends bien, on est un peu dans l'idée, on n'est pas sur quelque chose sur comment mobiliser, enfin comment faire venir par rapport à son projet, mais on est vraiment sur, une fois que j'ai clarifié un petit peu mon projet associatif, une fois que j'ai des gens qui se disent, bah tiens, pourquoi pas, moi je veux bien filer un petit coup de patte et je veux bien être bénévole dans cette association-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça perdure dans le temps, c'est ça ?
Ouais, on est à peu près là-dedans. Alors il y a à la fois tu l'as dit, hein, le côté clarifier son projet associatif, qui est quand même la chose, à mon sens, la plus primordiale quand on commence à vouloir mobiliser des bénévoles. C'est que comme beaucoup d'associations démarrent en règle générale sur une bande de potes, des gens qui se connaissent déjà, qui ont envie de créer un projet, de mettre en place des choses, ça se passe bien. Ben, globalement, on est tous d'accord parce que le projet, on l'a créé ensemble, on l'a construit ensemble, et donc les premières années, ça se découle de ça. Donc c'est, dans notre tête, c'est hyper clair. C'est qu'au bout d'un moment, par contre, il va falloir être amené à clarifier le projet là où il est maintenant et là où tu as envie de l'emmener, enfin où l'association a envie de l'emmener dans quelques temps, donc de l'écrire, de le poser et de le communiquer pour qu'il y ait des bénévoles qui puissent se mobiliser dessus en disant ah bah tiens, ça c'est un projet qui m'intéresse aussi et sur lequel je peux me projeter.
Le retraduire, c'est ça, c'est le recontextualiser, enfin comment est-ce qu'on fait justement pour éventuellement clarifier son projet, on met de l'eau dessus et puis on voit ce que ça donne.
Ouais, ça a tu risques de l'éteindre, c'est pas drôle. Non, le meilleur moyen de clarifier un projet, c'est d'en discuter. Enfin, c'est de créer des temps de rencontre entre les bénévoles qui sont déjà présents dans la structure. D'accord. Et puis qui lancer un peu des pistes, déjà d'étaler les lieux de ce qui se passe, de ce qui est fait dans la structure. Et puis après, des envies de chacun. Et après, c'est le principe, c'est là va être de, comment dire,
de se projeter.
Projeter, de poser des jalons aussi, parce qu'on peut pas tout faire tout en même temps. On a toujours plein d'envies, hein, qu'on se retrouve de 5 à 10 dans un conseil d'administration à décider de qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans. Évidemment, il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Après, il faut réussir à le clarifier, à le cadrer, à l'écrire. Et à partir de ce moment-là, après, ça peut être facilement communicable aussi par l'ensemble des membres de l'association. Et c'est ça qui est le plus important aussi, c'est que chaque membre de l'asso doit pouvoir dire, bah, moi, mon projet, le projet de l'association, c'est ça.
D'accord. Donc déjà, clarifier un petit peu son projet. Ça peut être assez chronophage, cette partie.
Cette partie-là, c'est ultra chronophage, parce qu'en plus, évidemment, on y revient quasiment tous les 2-3 ans. Enfin, c'est le genre de choses où c'est des projets triennaux ou genre de choses, par exemple. Et du coup, on y revient, on refait un point d'étape, un bilan de ce qui a été fait, et après, on se reprojette sur l'après.
Mais qui sert pas à rien.
Ah non, c'est le truc clairement qui sert tout le temps. En fait, peu de structures longues ce projet-là, mine de rien, on prenne le temps de le mettre en place, alors que ça reste quand même la base de ce qui va sous-tendre l'ensemble des bénévoles derrière. Et ce qui est le plus important, c'est qu'à partir du moment où il est écrit, ensuite on peut mettre en place une hiérarchisation.
Attention, grand terme. Là.
Ouais, ouais, c'est voilà. Ça.
Une priorité, des priorités.
Non, mais c'est même pas ça, c'est hiérarchiser. Ça, c'est, bon, il y a la hiérarchisation des priorités. Ça accumule plein de choses là, sur le projet. Mais non, mais après, c'est, là, je parlais plutôt vraiment de l'humain et des équipes bénévoles. C'est qu'on n'est pas obligé d'être dans le CA pour connaître le projet. Et donc, c'est toute la dimension des commissions au sein d'une association. Où là, en gros, on passe à la deuxième étape. Donc, dans l'organisation d'une asso, on va avoir le conseil d'administration qui est élu par l'Assemblée Générale.
Ouais.
En son sein, il y a le bureau. Mmh. Donc, ça, c'est un peu ce que tout le monde connaît. Mmh. Et ensuite, dans beaucoup d'associations.
En tout cas, c'est la gouvernance qui est classique.
Voilà.
Exactement.
La gouvernance classique qui fonctionne dans la plupart des cas. Mmh. Beaucoup d'associations ont aussi des commissions. Alors qu'ils sont ou non issus d'un conseil d'administration avec un membre du conseil d'administration dans chaque commission, voire zéro membre du conseil d'administration dans une commission. Mmh. Et ces commissions sont chargées d'une partie du projet de l'asso. Alors dans le cas de nous, par exemple, sur un festival, on va avoir des commissions qui vont s'occuper de la partie développement durable, la partie accessibilité, du bar, des toilettes sèches, de la communication, de la programmation, qui sont des bénévoles qui vont être amenés à travailler sur une petite partie du projet. Et alors c'est comment est-ce que tu fais pour mobiliser ces bénévoles-là et surtout pour les responsabiliser et leur permettre de prendre position dans cette commission-là. Si t'as pas de projet décrit et si on t'a pas dit à un moment le projet de l'association c'est d'aller là, en fait tu peux pas prendre de responsabilité au sein de ces commissions là parce que t'as toujours peur d'aller trop loin, pas assez, ainsi de suite.
C'est flou quoi, c'est flou, je sais pas ce que je peux faire, etc. Donc sur l'aspect de entre guillemets répartir un peu aussi les différentes missions ou en tout cas axes du projet par le biais de commissions, ce qui peut permettre aussi à des bénévoles qui auraient pas envie d'être dans le conseil d'administration parce que ça fait peur, et aussi de se mobiliser sur quelque chose auquel c'est plus facile de m'engager pour une commission parce que je sais à peu près ce que ça veut dire quoi.
Ouais. C'est ça. Ouais, oui, complètement. C'est que du coup la plupart du temps les bénévoles vont s'investir dans un projet parce que le projet les botte. Mmh. D'une part, le projet c'est un festival de musique actuelle,
l'organisation d'un match de foot.
D'un match de foot, ça marche aussi. En gros, un triathlon, ça fonctionne. Tout peut fonctionner à partir du moment où le projet de base t'intéresse. Après, la raison pour laquelle tu vas continuer à t'investir et à t'impliquer, c'est que tu vas y retrouver quelque chose aussi personnellement. Et ça, personne ne te le dit, que tu vas besoin d'avoir envie d'avoir quelque chose à en retirer.
Ouais.
Et ce truc-là, c'est ce truc des responsabilités, ça en fait partie. Le développement de compétences aussi, c'est important, ça en fait partie. Et du coup, quand t'es gros, dans les petits groupes de commissions, si on veut en revenir aux commissions, ça permet justement de développer ces envies-là et de les clarifier aussi pour toi qu'est-ce que tu as envie de développer. Le côté développement durable, par exemple, t'intéresse. Il est applicable en plus à quasiment toutes les associations et toutes les organisations.
Tout à fait.
Ça t'intéresse, ça te botte, envie d'y réfléchir, de mettre en place réellement dans le concret des choses. Et par contre, dans le cas d'un festival, la programmation, ça t'intéresse, mais tu es loin de ça, c'est pas ton truc. Ou la com, pareil, ça t'intéresse moyen. Par contre, tu as envie de mettre ta petite pierre à l'édifice sur le développement durable uniquement. Du coup, tu vas dans cette commission-là. Et de fil en aiguille, tu peux arriver dans le CA, dans le bureau, et réfléchir au projet plus global. Mais là, ça veut dire que ça a bien fonctionné, qu'on t'a bien eu, donc c'est cool.
C'est ça. Ok. Et donc, du coup, il y a dans cette formation, c'était axé un petit peu sur trois verbes que j'ai réussi à ressortir du truc: mobiliser, fidéliser et valoriser.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer de ces différents termes? Sur le mobiliser, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça?
Le mobiliser, c'est justement tout ce dont on vient de parler, en gros, ce projet, l'envie d'un bénévole, d'un humain et d'un gens pour venir s'investir sur un projet, il vient de lui. Enfin, du coup, là, d'aller chercher quelqu'un, ça fonctionne. Un pote qui vient chercher un autre pote, c'est un peu le truc de mobilisation de base.
Ouais.
Mais en tant que bénévole d'une asso, aller chercher des gens pour venir s'investir, faut que le projet soit clair. Ça, c'est le
clarifier
truc.
Le projet pour pouvoir facilement le communiquer et puis dire voilà ce qu'on veut vraiment, donc est-ce que tu as envie de nous rejoindre,
c'est ça,
ou pas,
et puis quels sont nos besoins aussi. Projet, tu clarifies par rapport à tes envies et tes besoins, et quand tes besoins sont clairs, du coup tu peux aussi mobiliser des gens sur des besoins hyper clairs. J'ai besoin de quelqu'un qui sache bricoler et qui a envie de faire de la scénographie, par exemple. Ça fait partie aussi des trucs. Quand tu clarifies ce besoin là c'est déjà beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui tape à la porte. Non, moi je sais faire et ça m'intéresse.
Ok, donc sur le côté, donc clarifier les envies et les besoins, sur l'aspect mobilisé. Est-ce qu'il y a d'autres axes? Le 2 sur le côté fidéliser, comment est-ce qu'on arrive? Et c'était un petit peu la question de départ, si j'ai compris. Comment on fait pour aller dans le temps, en fait, fidéliser, c'est ça? On met en place une carte de fidélité avec des points?
Ouais, avec des cadeaux à la fin
avec
de l'année.
Avec des cadeaux.
Complètement. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée, parce qu'elle est à la fois... dû à ce que l'association va mettre en place auprès de ses bénévoles, et puis bien évidemment au bénévole en lui-même qui va y retrouver ce que lui cherche. Donc on sait qu'on arrive dans une association et dans une structure par rapport à ce projet. On y reste parce que en 80% des cas, il y a des cas où on y retire quelque chose. Alors il y a la partie lien social, on rencontre des gens avec qui on a des affinités. Ça permet aussi de rester dans une structure et d'avoir envie d'y revenir régulièrement.
Phénomène de groupe, voilà. Comment est-ce qu'on arrive à créer une dynamique
c'est
interne.
Ça. Okay. Donc ça, ce premier truc-là, c'est ce principe. En gros, comment créer un esprit d'équipe au sein de cette structure-là. Mmh. Donc cet esprit d'équipe-là, il se crée avec plein de petits outils, des temps un petit peu informels de rencontres, qui ne sont pas des réunions pures et dures, mais vraiment des temps d'échange, on parle d'autre chose que du projet aussi. Enfin, du coup, ça crée du lien. Créer des outils de communication qui sont alors là d'autant plus en période Covid. Nous par exemple sur la structure on utilise un outil qui s'appelle Slack. Il en existe d'autres, ça peut être fait avec WhatsApp ou ce genre de choses aussi. Ça permet aussi à un moment de pallier à la problématique du mail qui est j'écris un mail et donc du coup il faut que le mail il soit hyper bien rédigé, hyper bien écrit avec une introduction, un début, une fin et qui va bloquer en fait sur l'échange informel et de la création d'un lien un peu plus important entre les bénévoles. Alors qu'un SMS, un truc envoyé à un groupe, tout de suite tu peux envoyer une blague, une photo, n'importe, ça marche très très bien aussi. Donc ça, c'est créer son propre petit réseau social en fait en intérieur d'une asso. C'est quand même plutôt un outil intéressant à travailler, qui fonctionne avec des gens qui ont déjà un peu l'habitude d'utiliser les smartphones.
C'est ça, voilà,
tout ça.
Bon, voilà. Après, ça, c'est toute la limite du numérique, mais ça se travaille. Ouais. Et de toute façon, les confinements ont permis de s'apercevoir que de toute façon, ça devenait un petit peu important de s'y pencher là-dessus. Donc, sur cet axe de fidéliser, donc de créer du lien en interne pour en fait créer une dynamique de groupe, un réseau.
C'est ça, tu crées un petit réseau, après t'as créé des temps de convivialité, qui est quand même un truc important aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le moment de l'événement, il n'y a pas que les réunions, il y a aussi des temps, on peut inventer ce qu'on veut, hein. Nous on fait des retours bénévoles avec des barbecues, on se faisait à une époque la galette, t'as des petits temps qui sont, venez là on vous offre un truc, on vous offre juste du lien, on vous offre un moment...
qui est la base première justement de l'association, d'un regroupement de personnes, donc du lien social. Donc comment est-ce qu'on n'est pas que sur du projet réunion institutionnelle et choses comme ça.
C'est ça, complètement.
Ok, donc prendre le temps de la convivialité, prendre le temps du lien. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects autour de la fidélisation entre guillemets
Et alors, ça rejoint justement le troisième aspect pour
quelle
le coup.
Quelle transition sur valoriser.
T'as vu un peu sur la valorisation. Okay. C'est qu'en valorisant, tu fidélises aussi. Et qu'à un moment ou à un autre, troisième raison, on va dire, après le projet et après le lien social pour lequel un bénévole va vouloir rester, se mobiliser et s'investir un petit peu plus, c'est justement cette partie compétence où t'as deux volets à la compétence, t'as à la fois celle que tu vas en retirer, tu vas retirer des compétences particulières dans un milieu,
tu vas apprendre quelque chose,
mais tu peux aussi donner des compétences. Et dans toutes les associations, on a les deux cas de figure entre des anciens qui ont envie de donner de leurs compétences et de leur expérience et des plus nouveaux qui veulent apprendre des choses aussi. Et ça, c'est valable sur plein de domaines, hein. Ça va être les compétences en termes d'animation de réunion, ça va être des compétences en termes de cuisine, en termes de bricolage, de peinture, toutes les compétences possibles et imaginables. À partir du moment où on va apprendre quelque chose, on va en retirer un bénéfice qui va être bien supérieur à celui auquel on s'attendait, pour le coup. Et ça, on a commencé à s'en rendre compte, nous, à l'asso, il y a 5-6 ans, et du coup, on a renforcé toute cette partie-là, cette partie formation, cette partie valorisation des compétences, en disant à un moment ou à un autre, c'est important aussi que le bénévole, il puisse avoir ses temps pour lui, qui sont des temps où tu vas apprendre des choses et comment tu arrives à le valoriser autrement.
Et comment est-ce que c'est mis en place, justement? Est-ce que ce retour, est-ce qu'on peut avoir un petit retour d'expérience? Je suis très curieux.
De comment tu mets en place des formations?
Oui, ou sur le fait, justement, cette valorisation, ces petits temps d'échange de compétences, de choses comme ça.
Grosso modo, tous les ans, on fait un petit peu un appel à nos bénévoles vous avez envie de quoi? C'est quoi votre problématique là du moment? Il y a certaines choses que nous on relève au quotidien parce qu'on voit que là il y a un besoin sur quelque chose, et du coup on va le mettre en avant, on va essayer de trouver un formateur, c'est la première chose.
Qui a envie d'apprendre, qui a envie de montrer ce qu'il sait faire.
Ouais, de montrer ce qu'il sait faire. Et du coup, notre parti pris, c'est que nous, on a des formateurs bénévoles. C'est-à-dire que c'est des bénévoles de chez nous qui vont former d'autres bénévoles. Qui en plus sont pas forcément uniquement de chez nous. On essaie aussi d'élargir un petit peu la chose. Donc on profite de ces temps de formation-là pour se faire se rencontrer des bénévoles de différentes structures. Mmh. Donc là, nous, par exemple, sur un Saint-Jean-l'été, on le fait avec le Fond de la Rue, avec les Entrelacés, avec la Compagnie Eau, qui sont des petits temps de bénévoles qui peuvent parfois se connaître de loin, mais parfois que seulement de loin, et qui ont des problématiques qui sont quand même très proches. Ouais. Donc qui permettent d'élargir encore plus ton lien et ton rapport à l'autre à ce moment-là, quoi. Donc on crée ce petit temps-là, on travaille avec le formateur bénévole sur le contenu, sur comment est-ce qu'on arrive à construire un petit peu les choses sur un contenu pédagogique, hein, en utilisant des gros mots, qui permettent aussi d'avoir quelque chose d'assez cadré. Et puis ensuite, on fait une journée de formation sur cette thématique-là. Alors on a eu plein de choses possibles, imaginables, quoi. Ça valorise. Si on revient sur les troisièmes trucs de valorisation, ça valorise très clairement un bénévole, ouais, parce que
montrer que son engagement aussi sert. Donc là, il y a l'aspect transmission. Toujours sur le côté, comment est-ce qu'on arrive à créer aussi ce lien social, hein, là-dessus. Donc comment est-ce qu'on fait rencontrer les gens, les faire échanger, et puis montrer que chaque personne a aussi un savoir. Enfin, voilà, peut aussi apporter quelque chose.
Quelque chose de précis, ouais.
Derrière ce terme valoriser, on met un peu trop souvent le terme médaille. Sais que voilà, sur le fait lors de la galette, on va mettre en avant une personne qui a...
Ça on fait pas, non, ouais. ça on fait pas, non. Alors après il y a tout simplement dire merci aussi, enfin, c'est un truc qui est que sur ces temps un peu informels aussi, il y a toujours le petit discours du président, de là où le président, et de dire merci aussi bénévole, enfin tu t'investis, tu donnes de ton temps gratuitement, un merci ça tue pas, et c'est quand même le truc de base qui est important. Après il y a d'autres moyens de valoriser, enfin il y a toute cette partie de compétences qui est chouette. Il y a ce merci qui est quand même pas anodin, ces temps de convivialité qui sont aussi des merci dans les faits. Il y a des choses plus pécuniaires aussi qui sont mine de rien valables. Il y a le compte d'engagement citoyen.
J'allais y venir pour savoir si c'était mis en place.
Est-ce
qu'on peut avoir un petit peu d'explication, parce que c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années mais qui est très très peu connu en fait.
Ouais, ça fait 3 ans peut-être, 3-4 ans.
3-4 ans. Oui,
c'est pas si vieux. Mais le principe, c'est que depuis qu'il... Alors, il y a eu aussi une refonte du compte personnel de formation. On revient aussi à la formation pour le coup là, qui est liée à l'emploi qu'une personne peut avoir dans sa vie, hein, de base, qui est anciennement le DIF, et qui permet de cumuler des heures et donc des sous pour aller faire une formation. Le compte d'engagement citoyen permet de valoriser le bénévolat que n'importe qui peut faire pour le compte de plusieurs associations. Il faut simplement avoir cumulé 200 heures de bénévolat dans une année, dont 100 heures dans une même association. Ce qui peut aller très vite. Pour quelqu'un qui est bénévole dans un conseil d'administration, par exemple d'un
tout
festival,
tout à fait, tout à fait, les 100 heures,
les, voir les 200 heures, ouais, on les fait assez vite, ouais, en fait, ouais, en vrai. Ce qui fait qu'on les a. Ensuite, le fonctionnement est que le bénévole se crée un compte bénévole. Sur lequel il va renseigner ses heures, cumulant ses heures de réunion, de montage, de festival par exemple, de tenue de barrière sur une course, ainsi de suite, hein. Sur l'ensemble des associations sur lesquelles il peut être, donc il peut être sur plusieurs associations. La règle, c'est 200 heures en tout, dont 100 heures dans seule association.
Une seule asso, ok. Et ça, ensuite, comment est-ce que c'est...
Ensuite, chaque association en interne doit valider ces heures-là. Donc il y a quelqu'un dans chacune des associations du bénévole qui valide le fait que Jean-Pierre, il a été bénévole dans un tel endroit pendant tant d'heures, l'association en face valide ces heures-là. Et ensuite, ça se retrouve dans le compte personnel de formation sous un compte d'heures et donc d'argent pour faire une formation.
D'accord.
Qui peut être qualifiante, hein. Ça peut être là sur le compte personnel de formation, pour ceux qui connaissent et qui sont allés dessus, on peut faire des tonnes de choses, hein. On peut passer le code de la route, passer un CAP, il y a plein de choses possibles.
D'accord, donc comment est-ce qu'on l'association aussi valorise le temps passé par ses bénévoles pour qu'ensuite bénévole puisse, ça va être tout de suite redispatché, enfin remis sur les comptes personnels de formation pour ensuite pouvoir bénéficier de complètement autre chose et de ce qu'il a bien envie.
C'est ça, complètement.
une fois qu'il y a tout ça, où est-ce que ça nous mène ? Enfin voilà, quelle est la, entre guillemets, la conclusion un petit peu de tout ça ?
Bah avec l'humain, il y a pas trop de conclusion. Hein. Ça peut t'emmener plein de, ça peut t'emmener dans plein de trucs pour le coup. Ça peut être plein de choses. Enfin du coup, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que tu vas avoir des bénévoles qui vont du coup s'investir, se continuer à s'investir, et puis ça change. Enfin, t'as les nouveaux qui arrivent. C'est une vie en fait d'association. Tu crées un écosystème qui va fonctionner le moins possible en vase clos, qui va rester le plus ouvert possible aux autres. Mmh. Et à partir de ce moment-là, c'est un boulot de tous les jours, mais ça finit par payer.
Ouais, parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel on pense que ça va se faire naturellement, où on se dit, bah voilà, les gens vont venir, ils vont communiquer, ça va se mettre en place, etc. Mais c'est quand même un aspect sur lequel il faut se pencher. En tout cas, comme tu le disais, un peu prioriser, ou en tout cas réfléchir et y mettre des outils pour clarifier un petit peu aussi cette dynamique-là. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Bah, tout simplement de s'organiser en interne pour la pérennité.
C'est ça. C'est un peu comment tu pérennises un projet, c'est un peu la base de la pérennité du projet. Après, il y a des. Là, tout ce qu'on vient de dire et la formation qu'on a faite, elle pose des mots sur ce genre de choses. Après, il y en a qui le font de manière très naturelle, qui ont aussi un penchant très ouvert et très facilement
très
dans ce genre de trucs, très social, et du coup, ça fonctionne. En fait, c'est comment on théorise la chose, alors qu'en réalité. Ce que je disais au début, c'est que beaucoup de projets sont nés d'une bande de potes qui ont créé un truc. Tu te poses pas du tout ces questions-là, en fait, quand t'es une bande de potes qui crée un truc, parce que ça se fait tout seul. Quand t'es une bande de potes, c'est le après, quoi. C'est au bout de 7, 8 ans d'activité qu'il faut élargir à
quand la bande
à d'autres,
de potes est devenue très importante. avec des nouveaux, des anciens
qui s'en vont, enfin, ce qui arrive, une vie d'assaut classique, quoi.
Et d'ailleurs, on peut relier sur la clarification et un petit peu mettre des mots, ou en tout cas, ce qui peut être important, c'est aussi s'en rendre compte par soi-même vis-à-vis de la situation propre de chaque association, à la possibilité d'accompagnement par le DLA, par exemple, hein, voilà, sur ce dispositif qui peut aussi permettre de... Parce que peut-être que certaines personnes vont s'en apercevoir, d'autres un petit peu moins, et vont pas avoir envie de le creuser vraiment, mais ça peut être aussi accompagné dans cette démarche-là. Si on veut résumer un petit peu justement cette formation, enfin, ou en tout cas cet axe-là sur comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on fidélise et valorise
une équipe
de bénévoles.
Comment est-ce qu'on anime en fait une équipe bénévole ? Parce que c'est de l'animation, ni plus ni moins. Hein. Tu aides à faire vivre cet écosystème de bénévoles. Mm-hmm. Tu le diriges. Le conseil d'administration le dirige. Du coup, avec ce projet. Après, au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'à l'intérieur, chacun y trouve son compte et comment chacun arrive à s'y épanouir, à prendre des responsabilités, à s'engager et ou à le quitter si à un moment ou à un autre, il y a aussi plus d'affinité. Ça arrive.
Donc, comment faire vivre le lien social un petit peu tout au long de l'année aussi dans une association ? Comment est-ce qu'on arrive à chaque bénévole puisse avoir sa place, être valorisé, aussi responsabilisé, etc.
C'est toujours compliqué de parler de ces sujets-là qui demandent énormément d'échanges avec des fonctionnements qui sont aussi différents d'une structure à une autre. Cette formation-là, on l'appelait formation, mais c'est aussi un temps d'échange, c'est-à-dire qu'on a... C'est le principe de, toutes les expériences sont différentes, donc à un moment ou à un autre, il faut s'appuyer sur les gens avec qui vous êtes dans l'assaut, et puis votre territoire, les autres associations qui gravitent autour, ça c'est important.
Merci beaucoup Steven Jourdan de nous avoir présenté cette formation et cette expertise. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et contacter Steven, vous pouvez lui envoyer un mail à steven@unsingeenete.com. Belle fin de journée.